France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei et Barthélémy Gaillard, réalisée avec Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à la vision toute trumpienne de la paix dans la quête du président états-unien pour le prix Nobel. Aujourd'hui au Moyen-Orient, où la paix qu'il envisage se fait d'abord par les armes. Donald Trump ici au mois de mai, juin et août.
Après tant de décennies de conflits, nous avons enfin la possibilité d'accéder à l'avenir dont les générations précédentes ne pouvaient que rêver. Une terre de paix, de sécurité, d'harmonie, d'opportunité, d'innovation et de réussite, ici même au Moyen-Orient. Il y aura soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran bien plus grande que celle dont nous avons été témoins ces 8 derniers jours. N'oubliez pas qu'il reste de nombreuses cibles. Celles de ce soir étaient de loin les plus difficiles et peut-être les plus meurtrières. Mais si la paix ne s'installe pas rapidement, nous nous attaquerons à ces autres cibles avec précision, rapidité et habileté.
$60 million was given by the United States fairly recently to supply food.
Les États-Unis ont récemment donné $60 million pour fournir de la nourriture, et beaucoup de nourriture, franchement, aux habitants de Gaza qui, de toute évidence, ne se portent pas très bien sur le plan alimentaire. Et je sais qu'Israël va nous aider dans ce domaine, tant en termes de distribution que d'argent. Les États arabes vont également nous aider financièrement et peut-être aussi pour la distribution. C'est donc là-dessus que je me concentre. Pour le reste, je ne peux vraiment pas me prononcer. Cela dépendra en grande partie d'Israël.
Le mot « rasé », employé pour qualifier les villes bombardées, ne semble pas toujours convenir, écrit Justine Auger dans son livre « Personne morale ». La matière ne se dissipe pas, la ville ne disparaît pas, mais elle mute, se change en amoncellement de ruines de béton, de tiges d'acier et de traces de vie, observe l'écrivaine qui s'intéresse notamment au ciment, ce matériau lourd sous lequel se trouvent toujours coincés des corps que l'on peine à dégager. On n'entendait plus parler depuis quelques semaines de cette idée qu'on pensait lancer en l'air par Donald Trump de transformer une Gaza en ruine, en une zone touristique à la manière de la Côte d'Azur. Le Washington Post a pourtant donné des nouvelles de ce projet le 31 août. Il s'agirait de placer l'enclave sous administration américaine pendant 10 ans, après en avoir chassé sa population, même si le texte parle de départ volontaire contre somme d'argent, $5 000 en liquide. Aux États-Unis, la question de savoir jusqu'où soutenir Israël divise jusqu'au camp républicain. Les néoconservateurs et les évangéliques y sont toujours très attachés. Donald Trump lui semble agir comme bon lui semble et pas toujours en faveur de Benjamin Netanyahou, levant les sanctions contre la Syrie quand l'islamiste Ahmed al-Shara prend le pouvoir ou refusant de frapper l'Iran pour finalement changer d'avis au mois de juin. Alors que s'ouvre le 22 septembre le sommet des Nations Unies au cours duquel plusieurs pays comptent reconnaître l'État de Palestine, mais que les responsables palestiniens eux-mêmes pourraient ne pas pouvoir rejoindre, privés de visa par les États-Unis, quelle paix imagine Donald Trump au Proche-Orient ? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Im Momtaz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef de la plateforme Strategic Europe chez Carnegie. Vous avez contribué au dernier numéro de la revue de l'IFRI, Politique étrangère. Votre article porte justement sur l'administration Trump 2 et le Moyen-Orient. Bonjour Martin Quincé.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes directeur du bureau de Paris du think tank German Marshall Fund des États-Unis. Comment expliquer d'abord, Martin Quincé, cette décision prise ce week-end, donc c'est vraiment tout récent, par les États-Unis, celle de refuser aux membres de l'autorité palestinienne et de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, de refuser de leur accorder des visas, y compris à Mahmoud Abbas?
Le soutien de l'administration Trump à Israël prend plusieurs formes. Une forme d'abord de soutien militaire, soutien de renseignement, mais également une forme politique et diplomatique très importante depuis le 7 octobre. Cette action est d'abord symbolique pour montrer le désaccord, l'opposition des États-Unis à l'ensemble des pays que vous avez mentionnés qui comptent reconnaître l'État de Palestine en ce mois de septembre. C'est aussi une manière pour moi de montrer, encore une fois, la manière dont l'administration Trump pense les organisations internationales, pense son rôle d'hôte de l'ONU à New York. C'est très clairement un problème pour la légitimité aujourd'hui de l'ONU que de refuser la venue des représentants palestiniens lors de l'Assemblée générale. Et ça peut être rapidement convu comme un nouveau clou dans le cercueil de cette institution par l'administration.
Le département d'État se justifie dans un communiqué en disant qu'il est dans l'intérêt de notre sécurité nationale de tenir l'OLP et l'autorité palestinienne pour responsable du fait qu'ils ne respectent pas leurs engagements et portent atteinte aux perspectives de paix. Qu'est-ce que ça veut dire ?
D'une certaine manière, l'utilisation de la sécurité nationale pour justifier un petit peu tout et n'importe quoi est un fil rouge de l'administration Trump. Ça se joue ici pour le cas de la Palestine. Mais on agite la sécurité nationale pour justifier des tarifs contre tel pays, pour justifier telle action diplomatique ou politique. Je pense que c'est intéressant de le noter ici. Mais ça ne me choque pas parce que pour moi, c'est une caractéristique de l'administration Trump que d'utiliser cet argument sur tous les sujets.
Et l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, de déclarer avant-hier dans un entretien à la BBC que la reconnaissance d'un État palestinien serait désastreuse. Côté français, c'est bien Emmanuel Macron qui devrait annoncer, s'il tient cet engagement-là, la reconnaissance de l'État palestinien. Le gouvernement est tombé hier, mais sous la Ve République, c'est le chef de l'État qui représente la politique étrangère de la France. À votre connaissance, Rim Montaz, est-ce qu'on sait si la France, le Canada, l'Australie, qui ont également cette attention, ont reçu des pressions de la part des États-Unis. Est-ce que ceux-ci ont cherché à dissuader la reconnaissance d'un État palestinien par ceux qui n'avaient pas encore fait ?
En fait, la pression qu'ils subissent depuis la déclaration d'Emmanuel Macron en août est redoutable. La pression que subit la France en particulier est très publique, elle est très violente. Et d'ailleurs, elle enfreint tout ce qui est établi diplomatiquement entre deux alliés qui sont alliés depuis plus de 200 ans. Ce qu'on est en train de voir de la part de l'ambassadeur américain en France, par exemple, qui a publié une lettre publique qui attaque en fait le président de la République française, ce qu'on voit dans... Je suis désolée d'utiliser ce mot, mais les mensonges que le ministre des Affaires étrangères américain continue de proférer à l'encontre de la position américaine, et ça traduit en fait une idéologisation de cette relation qui est très problématique. Les autres pays, que ce soit le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, eux aussi subissent des pressions, mais moindres comparées à ce que la France est en train de subir, parce que la France est vue comme le leader, et elle est leader. Sur cette initiative. Et ce qui est en fait assez inquiétant aussi, ce sont les pressions que les pays arabes sont en train de subir. Ça commence en fait à les refroidir parce que ce qui est très intéressant dans l'initiative du président Macron, premièrement, c'est une initiative qui est partagée par la France et l'Arabie Saoudite. Donc c'est la première fois depuis les accords d'Oslo, mais même avant les accords d'Oslo, donc les années 90, que les Arabes prennent une position de responsabilité réelle sur la question palestinienne.
Sans vouloir reconnaître Israël, en revanche, du côté de l'Arabie Saoudite.
Non, mais en fait, c'est pas une question de reconnaissance d'Israël pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite reconnaît déjà de fait Israël, puisqu'il y a de la coopération sécuritaire qui existe entre les deux pays. La question, c'est la normalisation que vous posez. Et aujourd'hui, les Arabes s'engagent à désarmer le Hamas, à réformer l'autorité palestinienne et donc à délivrer ce que le gouvernement israélien et le gouvernement américain prétendent vouloir, c'est-à-dire la sécurité pour les Israéliens et évidemment les droits de la dignité des Palestiniens.
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait déclaré jeudi avoir prévenu Paris et les autres capitales concernées de possibles représailles de la part d'Israël si ces capitales donc vont jusqu'au bout de cette promesse de reconnaître l'État de Palestine. Les représailles en question, d'après Marco Rubio, c'est l'annexion de territoire en Cisjordanie. Depuis quand les États-Unis mettent-ils en garde Martin Quincey contre une annexion de territoire en Cisjordanie alors qu'ils n'ont jamais trouvé à redire à la colonisation et ils ont jusqu'à poser leur veto lors des différents votes à l'ONU qui devaient la condamner?
Oui, en fait, la question de l'annexion de la Cisjordanie pose un problème pour l'administration Trump. Idéologiquement, Il n'y a pas vraiment de sujet. Mike Huckabee, l'ambassadeur américain, ancien pasteur, est tout à fait aligné sur cette idée que Israël doit finalement pouvoir s'étendre au territoire cisjordanien.
En Judée-Samarie, comme ils disent eux aussi, les évangéliques états-uniens en général.
Voilà, l'utilisation des termes. Une terminologie politique. Mais le sujet pour moi, c'est davantage pour Donald Trump de trouver un équilibre entre cette vision qui aurait tendance à donner une carte blanche à Israël sur le sujet. Ce n'est pas un gros sujet politique. Et les enjeux stratégiques ou parfois personnels qu'il peut avoir avec des pays du Golfe, des pays en Europe qui l'alertent contre une telle politique. Donald Trump n'est pas intéressé par le chaos total au Moyen-Orient. Son objectif, c'est de pouvoir, comme vous l'avez dit dans l'introduction, se montrer comme le faiseur de paix, celui qui a apporté la stabilité dans la région. La colonisation et plus largement l'annexion de la Cisjordanie ne peut pas l'amener vers ce grand objectif du prix Nobel ou de la stabilité durant sa présidence. Et ça, il doit l'entendre et un certain nombre de partenaires et d'alliés des États-Unis le lui disent directement.
Et d'ailleurs, vous rappeliez, Rimon Mtaz, dans un article récent pour la revue de l'IFRI, que même au sujet des accords d'Abraham, par exemple, qui ont constitué l'unique initiative d'envergure de Donald Trump, eh bien, sa portée a été limitée parce que l'approche était purement mercantile et ignorait le cœur du conflit régional, donc la question palestinienne. Est-ce que Donald Trump est en train de se rendre compte ou pas que cette question, notamment de la colonisation en Cisjordanie, définit tout le reste, toutes les relations qu'il peut établir ensuite avec les pays du Moyen-Orient?
Il ne s'en rend pas compte parce que malheureusement, en fait, les grandes puissances des pays arabes n'en font pas comme on dit en anglais, un deal breaker sur la question des relations mercantiles, des grands deals qu'ils peuvent mettre en place avec les États-Unis. Par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que même les Émirats arabes unis, qui eux font partie des accords d'Abraham, quand il y a eu cette dernière déclaration en fait d'un élargissement, d'une colonisation autour de Jérusalem qui en fait allait scier en deux la Cisjordanie, les Émirats arabes unis qui depuis le 7 octobre sont très silencieux sur la conduite de la guerre par le gouvernement israélien à Gaza, ont pris position très publiquement en disant si le gouvernement israélien va de l'avant avec cette annexion, là ils sont en train de mettre en danger en fait, l'intégration régionale qu'ils veulent. Et ils ont dit quelque chose de très intéressant, ils ont dit qu'ils doivent choisir entre l'annexion et l'intégration. Et comme vous le rappelez, c'est vrai que les accords d'Abraham, c'est la seule vraie initiative politique d'envergure, avec un bilan testamentaire qu'il veut mettre en avant pour son prix Nobel de la paix, qu'il veut réellement dans la région. Donc c'est là où on voit que les Arabes ont plus de leviers qu'ils ne sont réellement en train d'utiliser aujourd'hui.
Alors, quant au plan américain, états-unien, pour l'après-guerre à Gaza, qui a été détaillé fin août par le Washington Post, est-ce qu'on sait, Martin Quincé, qui l'a élaboré, ce sort des Gazaouis réglé en 38 pages?
On a noté ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, un retour plus public de Jared Kushner sur la scène diplomatique américaine, qui était particulièrement impliqué durant la première présidence dans les accords d'Abraham et qui a, lui, une certaine vision du Moyen-Orient, ce qui n'est pas le cas de tous les gens autour de Donald Trump qui peuvent avoir des liens très mercantiles, très transactionnels avec les pays arabes, avec Israël. Il y a néanmoins, chez Jared Kushner, une certaine vision de ce que peut être le Moyen-Orient du futur. Il y a aussi des liens personnels entre Jared Kushner et un certain nombre de leaders dans le Golfe. C'est quelqu'un qui, durant les 6 premiers mois de ce second mandat, a été moins visible qu'il ne l'était pendant la première présidence et qui reprend avec le dossier de Gaza davantage d'influence et qui sera certainement derrière ce qui va être formulé par Washington dans les semaines et mois à venir.
On avait appris cet été notamment qu'un cabinet de conseil états-unien avait participé à élaborer ce plan, le Boston Consulting Group, dont ensuite les membres ont dit qu'ils n'avaient pas été payés pour ça. Je crois que certains même ont été licenciés. Enfin, ça avait... Mais néanmoins, ce plan existe, il fait 38 pages, il prévoit de déplacer toute la population du territoire palestinien qui serait placée sous administration américaine pendant 10 ans pour le transformer en un centre touristique et technologique avec 6 à 8 nouvelles villes intelligentes alimentées par l'intelligence artificielle qui seraient construites dans l'enclave. On parle de déplacements volontaires, entre guillemets, des quelques 2 millions d'habitants de Gaza vers d'autres pays ou dans des zones sécurisées à l'intérieur du territoire, mais dans d'autres pays, qu'est-ce que ça veut dire, Imomtaz? Qu'en pensent les pays voisins en question, par exemple l'Égypte, la Jordanie? Est-ce qu'ils ont d'ores et déjà dit à Donald Trump ce qu'ils en pensaient de ce plan-là?
Déjà, il faut poser les bons mots sur ce plan. C'est un plan, en fait, de nettoyage ethnique des Gazaouis hors de Gaza. C'est incroyable de le voir tellement, pacifié par l'utilisation d'un jargon de consultant. C'est ça, le plan pour Gaza. Et effectivement, l'Égypte et la Jordanie, qui sont, il faut le rappeler, des partenaires, des piliers de la paix dans la région, ce sont les premiers pays arabes qui ont signé la paix avec Israël. Eux, ils sont aux premières lignes et ils se disent, en fait, si c'est ce qui se passe, ils vont avoir des problèmes de sécurité intérieure parce que ça va créer des révolutions dans leur pays. Ça ne peut pas passer avec les peuples jordaniens et égyptiens en particulier qui ont des liens familiaux avec les gens de Gaza. Donc c'est un énorme problème de stabilité, de sécurité politique dans la région. Mais quand vous lisez le plan, vous comprenez en fait que de toute façon, l'approche de l'administration Trump aujourd'hui, elle a été complètement phagocytée et prise en charge par des considérations qui sont des considérations de tech. On voit la prépondérance des grands géants de la tech dans cette administration, d'ailleurs dans la relation avec l'Union européenne, pas seulement sur cette question palestinienne, et aussi cette question de... Ils disent vouloir construire 30 à 40 hôtels de luxe pour le tourisme. Vous vous rendez compte, il y a aujourd'hui une population qui est à minima, souffre d'une malnutrition aiguë à maximum. Il y a des zones où il y a de la famine, on est à plus de 60 000 morts et eux, ils pensent à des hôtels de luxe de tourisme.
Et se défendent aussi, ou se défendront à l'avenir de toute accusation de nettoyage ethnique en disant « Mais regardez, aux Palestiniens de Gaza, on va leur donner 5 000 $ en liquide et une aide couvrant 4 ans de loyer et 1 an de nourriture. On va aussi leur donner des jetons numériques à utiliser pour financer une nouvelle vie ailleurs ou à échanger contre un appartement dans l'une de ces nouvelles villes d'intelligence artificielle qu'ils imaginent à Gaza. » Ce plan totalement, je ne sais pas comment dire, délirant, diabolique, Martin Quincé. On ne sait pas exactement qui l'a rédigé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur la guerre à Gaza, c'est surtout Serge Witkoff qui mène les discussions directement ou pas. Est-ce que c'est lui le nœud gordien de l'affaire, de la question, sachant qu'on parlera de lui plus précisément tout à l'heure?
Je pense que c'est une réponse un peu facile, mais sur toutes les questions de politique étrangère, la personne qui compte, c'est Donald Trump. Je pense qu'on a beaucoup trop fait, encore depuis 6 mois, à essayer de chercher autour de lui la personne qui compte, celui qui aurait l'oreille de Donald Trump. Sur tous les sujets, comme sur le sujet israélo-palestinien, c'est Donald Trump qui décide, c'est Donald Trump qui, selon parfois des instincts qui n'ont rien à voir avec ce que ses plus proches conseillers peuvent lui dire, prendra telle ou telle position. Ce qui est d'ailleurs, un point, je pense, de nuance par rapport à ce plan, c'est que l'administration Trump peut avoir des visions quasiment messianiques de créer un monde à Gaza.
Mais c'est pour ça que le mot diabolique n'est peut-être pas très adapté.
Elle n'est pas capable, à mes yeux, de mettre en place des politiques de développement, des politiques de paix très complexes, parce que le chaos au sein de l'administration, parce que le manque de professionnalisme d'un certain nombre d'acteurs, et parce que la personnalité même du président rend très difficile la mise en œuvre de plans longs et qui exigent à la fois de l'économie, de la tech, de l'humanitaire, de la diplomatie. C'est vrai à Gaza, c'est vrai en Ukraine malheureusement, c'est vrai en Indo-Pacifique, et je pense encore une fois que c'est un fil rouge de l'administration.
Mais parce que fondamentalement, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de construire des politiques qui ont un effet, un impact sur le terrain. Ce qui l'intéresse le plus, ce sont les effets d'annonce. C'est effectivement cette quête pour le prix Nobel de la paix. Et c'est des deals. Et donc, Witkoff a été important. Et il joue un rôle, en fait. Il n'est pas sans son importance. Tout comme un autre de ses amis milliardaires qui s'appelle Tom Barrack, qui lui s'occupe de la Syrie et du Liban. Et en fait, c'est très parlant, et ça raconte un peu tout de la diplomatie à la Trump, qu'il est mis en charge de dossiers ultra brûlants, très complexes, que ce soit l'Ukraine, Gaza, le Liban, la Syrie, deux milliardaires qui n'ont rien à voir avec la diplomatie et qui ne s'intéressent pas nécessairement d'ailleurs à l'historique politique, sociale, religieux de ces conflits. Et en fait, ça montre que c'est toute la difficulté que les Européens ont à essayer d'avancer, que ce soit avec l'administration américaine, sur l'Ukraine, mais aussi sur Gaza. Ce qui aurait été peut-être plus logique, comme c'est une administration qui ne travaille plus en fait avec tous ses atouts, ça aurait été que cette administration américaine se tourne vers la France et l'Arabie Saoudite, qui eux mettent en avant un plan du jour d'après à Gaza, qui est en fait a pour objectif d'assurer la sécurité des Israéliens et des Palestiniens et de trouver une solution pérenne, de leur dire super, on va travailler ensemble, nous on a la capacité d'imposer un cessez-le-feu et d'imposer un cessez-le-feu au Hamas comme gouvernement israélien, et vous prenez le relais pour l'avenir. En fait, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne pensent qu'à ces deals pour faire de l'argent.
En tout cas, puisque vous faites l'un et l'autre le lien aussi avec l'Ukraine, jusque dans la terminologie, les dossiers sont traités un peu de la même façon. On ne parle plus à Gaza d'un plan de cessez-le-feu ou de cessez-le-feu tout court. On parle d'un accord de paix global. Mmh. Vous vouliez, Martin Cassé, ajouter quelque chose?
Non, juste un point sur ce que disait Rim concernant la personnalité de Witkoff, de Tom Barrack ou autre. Je pense que le désintérêt pour la complexité historique et politique de ces sujets est voulu. C'est-à-dire que pour Donald Trump et les gens autour de lui, les gens qui complexifient trop ces sujets ne mènent à rien.
Là, c'est un gage de pragmatisme, de ne rien connaître.
Absolument. Et d'ailleurs, on a souvent vu dans la rhétorique républicaine autour des accords d'Abraham, on a beaucoup vu les vidéos de John Kerry, l'ancien secrétaire d'État sous Obama, dire « si vous ne réglez pas la question palestinienne, vous n'aurez jamais aucune paix entre Israël et un autre pays arabe », pour montrer que John Kerry, l'administration Obama, ceux qui pensaient, qui faisaient des réunions interminables sur ces sujets, non, ne sont pas parvenus à faire quoi que ce soit. Nous sommes arrivés avec un plan qu'on nous a dit était très simpliste, et on a réussi à faire une normalisation entre un certain nombre de pays du Golfe et Israël. Donc la simplicité et le refus de prendre en compte la complexité politique et historique est un objectif en soi de l'administration Trump.
Est-ce que vous voyez quand même Donald Trump prendre quelques distances depuis quelques semaines, quelques mois avec Benjamin Netanyahou? Il s'agit pas de dire qu'il a été jusqu'à présent quelqu'un qui s'est opposé au Premier ministre israélien. Depuis son premier mandat et le début du deuxième, il a quand même plutôt été un soutien indéfectible. Il a supprimé dès la première semaine de son deuxième mandat les sanctions qui visaient les colons israéliens coupables de violences en Cisjordanie. Il a rétabli la livraison de bombes de 1000 kilos à l'armée israélienne. Il a reçu Benjamin Netanyahou, premier de tous les dirigeants étrangers, dès le 4 février. Néanmoins, Rim Momtaz, quelle distance a-t-il depuis prise avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou, en tout cas celles qui vous paraissent les plus notables?
Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a fait en fait le chemin inverse, c'est qu'il a commencé son second mandat en ayant beaucoup de distance par rapport au gouvernement israélien et à Netanyahou, par exemple. Avant même sa prise de fonction, il s'est immiscé dans les discussions qui étaient déjà en cours avec l'administration Biden, il a su imposer un cessez-le-feu que Biden n'arrivait pas à imposer. Donc il arrive, il y a un cessez-le-feu à Gaza.
Même d'ailleurs, si on dit que tout avait été quand même préparé avant qu'il arrive.
Mais c'est l'arrivée vraiment de Trump. Et c'est la personnalité de Trump qui joue et qui force le gouvernement israélien à respecter ce cessez-le-feu. Et d'ailleurs, ça mène à la dernière libération d'otages qu'on a jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a encore qui sont détenus à Gaza par le Hamas. Et ce cessez-le-feu tient jusqu'à mars, moment où le gouvernement israélien décide de le violer de manière unilatérale. Pendant tout ce temps, et d'ailleurs jusqu'à mai-juin, son envoyé spécial Witkoff a des mots très durs et très cash. Il dit aux familles des otages israéliens, ceux qui sont l'obstacle réel au retour de vos enfants, c'est le gouvernement israélien. Le Hamas est en train de discuter avec nous. Il ne faut pas oublier que la première grosse tournée, enfin la première tournée internationale d'ailleurs de Trump depuis son retour à la Maison-Blanche, est dans les pays arabes, et il ne va pas en Israël. Il passe dans la région, mais il ne va pas en Israël. Et en fait, il y a un changement de cap total et un rapprochement total avec le gouvernement israélien en juin, quand Netanyahou prend le pari d'attaquer l'Iran pour dérailler la diplomatie en cours entre les Américains et les Iraniens. Et au lieu d'être sanctionné pour avoir fait ça, en fait, Trump le récompense et s'aligne complètement. Et depuis, il est complètement aligné sur la ligne de Netanyahou.
Vous écrivez qu'il a été presque galvanisé par les images sur Fox News et qu'il s'est décidé presque à la dernière seconde quoi, de contribuer lui aussi à frapper l'Iran et pas des sites, pas n'importe quel site.
Ça peut sembler un peu loufoque, mais en fait, c'est vraiment le président des États-Unis qui regarde la télévision et qui est jaloux des termes dithyrambiques dans lesquels sa télévision préférée décrit l'action d'un autre leader, et il va en être.
Il va en être, alors qu'il avait d'abord prôné la diplomatie, Martin Quincey. Il avait même limogé des conseillers accusés d'avoir trop évoqué les options militaires avec Benjamin Netanyahou, comme Mike Waltz, donc le conseiller à la sécurité nationale. Vous dites que c'est surtout une victoire politique de Donald Trump, que la façon dont il a à la fois bombardé l'Iran, mais aussi en ensuite obtenu un cessez-le-feu, parce que c'est aussi comme ça que ça s'est conclu avec Israël.
Oui, de la point de vue de la politique intérieure américaine, il y a, on en parlera, une division au sein du Parti républicain quant à la politique que les États-Unis doivent mener vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'Iran. Et la guerre des 12 jours en juin était un moment de tension pour l'administration Trump, puisque au sein même de l'administration, il y avait des voix assez discordantes sur ce que les États-Unis devaient faire. Et je pense que Trump a relativement bien joué cette partie-là, d'un point de vue de politique, parce que il est parvenu à contenter ceux qui voulaient absolument attaquer l'Iran, les faucons qui sont les plus durs vis-à-vis du régime de Téhéran, en attaquant, en frappant les installations nucléaires, en montrant la force des États-Unis dans cette guerre. Et en même temps, il a toute une branche très puissante au sein du Parti républicain qui ne veulent absolument rien à voir avec une guerre israélo-iranienne et qui ne veulent absolument pas s'embarquer dans une nouvelle aventure au Moyen-Orient. Et le fait qu'il arrive en quelques jours après les frappes à dire « c'est fini », nous avons un cessez-le-feu, cette guerre n'est pas Irak 2003, le retour, permet à ces gens-là d'être aussi réconfortés dans leur position. Ce n'est pas le président de la guerre éternelle, ce n'est pas celui qui va nous renvoyer à la folie des interventions en Afghanistan et en Irak. Il a trouvé cet équilibre et il en est sorti en ayant créer une unité là où il y avait vraiment un danger de division important.
Donc il a joué sur deux tableaux, entre guillemets, avec Israël. Enfin, d'abord en disant qu'il ne voulait surtout pas intervenir en Iran et que ce n'était pas sa guerre et que Israël devait aussi diminuer d'un ton face à l'Iran pour finalement s'y engager, puis faire signer un cessez-le-feu. Donc, là-dessus, on peut imaginer qu'avec Benjamin Netanyahou, les discussions ont été houleuses à certains moments. Sur d'autres sujets aussi, Rimon, la Syrie, par exemple, qu'est-ce qui a convaincu Donald Trump de normaliser entre guillemets ses relations avec la Syrie nouvelle et donc avec Ahmed al-Shara, ancien cadre d'Al-Qaïda? Sans doute pas Benjamin Netanyahou. Comment lui, Donald Trump, a-t-il, d'après vous, pris cette décision-là d'ouvrir ses portes à cette Syrie nouvelle? En fait, et surtout, quelle place imagine-t-il, pardon, pour la Syrie dans le nouveau Moyen-Orient?
En fait, il ne faut pas essayer de trouver une stratégie cohérente d'ensemble l'approche ou les décisions que Trump prend dans la région. En fait, ce sont des décisions qu'il prend, ce sont des à-coups qu'il fait, ce sont des décisions qu'il prend à la dernière minute. D'ailleurs, il s'en vante, il dit « moi, jusqu'à la dernière minute, personne autour de moi ne sait quelle décision je vais prendre », ce qui est assez catastrophique quand on est les États-Unis et avec un impact tellement important. Sur la Syrie, il l'a dit lui-même, c'est le prince héritier saoudien et le président turc qui l'ont convaincu de lever les sanctions contre les nouvelles autorités syriennes, étant donné le passé djihadiste du président actuel et des gens qui sont autour de lui. En fait, son pari, c'est que il est très important que la Syrie puisse avoir, bien mener sa transition et se stabiliser. C'est dans l'intérêt très important de la Turquie, qui aujourd'hui revient dans le jeu américain et est perçu par l'administration Trump comme un allié important et un partenaire très important dans la région. Donc c'est ça l'approche. Par contre, en fait, c'est son autre allié très important dans la région qui est en train de mettre en danger toute cette transition, notamment Israël, qui depuis l'arrivée au pouvoir, enfin depuis la chute de Bachar al-Assad, le dictateur syrien, ne cesse d'occuper de nouveaux territoires syriens, de bombarder la Syrie jusqu'à la capitale d'une manière qu'on l'a jamais vu faire quand Assad était là en train de massacrer son peuple. Et c'est intéressant, Martin disait, du jour au lendemain, il a décidé d'appeler Israël pour leur dire « Stop, maintenant vous arrêtez sur l'Iran » et Israël a arrêté. Ce qui prouve qu'en fait, il ne le fait pas sur la Syrie, il ne le fait pas sur Gaza, il ne le fait pas sur le Liban. Et donc, ça pose plein de questions sur est-ce qu'il y a une cohérence stratégique à son approche.
Pour la Syrie, Donald Trump a aussi sans doute entendu un certain plaidoyer de la communauté syrienne américaine dont vous dites, Rimantas, qu'elle est très mobilisée dans le Michigan en particulier. Avec la Syrie, il s'agira aussi de discuter coopération, coordonner la lutte contre les trafics d'armes et de drogue à la frontière avec le Liban, par exemple. Et puisque vous citiez tout à l'heure le nouvel envoyé spécial, enfin celui à qui Donald Trump a confié le dossier libanais, comme on dit, Tom Barrack, autre proche de Donald Trump, issu de l'immobilier, comme on dirait, issu de Germain, c'est la famille, pour le dire vite. Pourquoi d'abord la prédécesseure Morgane Ortagus avait-elle été limogée et quels sont les projets de Tom Barrack pour le Liban? Peut-être Rimantas, vous connaissez très bien le pays.
Alors, pourquoi est-ce que Morgane Ortagus a été limogée? Personne ne sait. Hein, ça reste un vrai mystère à Washington. D'ailleurs, elle est réapparue tout d'un coup au Liban, il y a 10 jours, aux côtés de Tom Barrack. Et quand on discute en fait avec les officiels américains, eux-mêmes ne savent pas trop comment répondre. Et en fait, ils voient qu'il y a des problèmes d'ego entre ces différents personnages. Mais même au Liban, en fait, Israël met en échec d'une certaine manière l'approche de Trump. Trump aimerait aujourd'hui pouvoir inclure le Liban dans les accords d'Abraham et faire une normalisation entre le Liban et Israël. Son envoyé spécial est d'origine libanaise depuis les années 1900. Hein, ses parents ont émigré aux États-Unis. Et donc, il a une approche un peu plus nuancée sur le Liban. Sauf que Israël refuse de se retirer des 5 points qu'il continue aujourd'hui d'occuper au Liban, alors que pour la première fois depuis 1978, il y a un gouvernement libanais qui est vraiment en train de désarmer le Hezbollah. Ils ont déjà désarmé 500 points et caches d'armes du Hezbollah. Ce n'est pas rien, avec des moyens qui sont très limités pour l'armée libanaise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils arrivent à la limite de leurs moyens et surtout la continuation de l'occupation israélienne au Liban les affaiblit. Et en fait, on voit que les Américains n'arrivent pas à imposer à Israël des concessions pour en fait aider au désarmement et donc à l'affaiblissement pérenne du Hezbollah qui est dans l'intérêt des Libanais et des Israéliens.
Il s'agit aussi d'entraver les financements illicites du Hezbollah, notamment en luttant contre l'économie informelle qui est née de l'effondrement financier de 2019 du Liban, de renforcer la coopération avec la Syrie. Pour l'instant, sur ce dossier-là, l'administration états-unienne n'arrive pas à obtenir des concessions de Benjamin Netanyahou. Peut-être un mot, Martin Quincé, sur les frappes aussi qu'Israël mène sur les rebelles houthistes du Yémen. Le 28 août, encore une frappe israélienne. Eliana Sana a éliminé le nouveau gouvernement formé par les houthistes, dont le Premier ministre, et puis de nombreuses autres victimes qui n'appartenaient pas toutes au mouvement chiite. Est-ce que là encore, on a une idée de la chaîne de décision sur le Yémen, qui s'occupe de ce dossier dans l'administration américaine et jusqu'où les États-Unis vont-ils laisser faire Israël? Alors il y a bien sûr beaucoup de représailles, parce qu'il y a énormément de tirs venant des houthistes, c'est pas la question, mais comment se formalise ce dossier-là?
En fait, le sujet des Houthis faisait partie de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, de cette série de décisions qui avaient laissé croire que l'administration Trump prenait une distance très sérieuse vis-à-vis du gouvernement Netanyahou au printemps dernier. On avait la discussion directe entre les États-Unis et le Hamas pour la négociation de la libération de l'otage Eden Alexander, israélo-américain. Et puis on avait cette décision de l'administration Trump d'avoir une sorte de cessez-le-feu bilatéral avec les Houthis, alors même que, durant la première partie du mandat, les États-Unis avaient dit à Israël « Vous nous laissez la question des Houthis, nous allons gérer cela ». C'était d'ailleurs le scandale de Signalgate où on a pu voir à quel point J.D. Vance et d'autres dans l'administration étaient énervés de devoir prendre en charge la sécurité de la mer Rouge et le conflit avec les Houthis. Donc on a eu pendant 4 ou 5 mois des États-Unis très impliqués. Puis d'un coup, on comprend que Donald Trump n'est plus intéressé par le sujet. Probablement que ses conseillers, comme J.D. Vance, lui, arrivent à le convaincre que ce n'est pas un sujet américain. La mer Rouge, c'est une route commerciale entre l'Europe et la Chine. Pourquoi les États-Unis devraient s'embêter à protéger cette route-là ? On a une sorte de retrait américain du sujet. Et depuis, Israël donc continue avec les Houthis d'enchaîner les attaques. Donc il y a de manière quasi quotidienne en Israël des sirènes sur des drones et des missiles Houthis.
Oui, il y a beaucoup d'attaques.
Et en représailles, donc des attaques dont celles que vous avez mentionnées. Aujourd'hui, je pense que l'administration Trump et Trump lui-même n'a que faire de ce sujet. En fait, c'est un petit peu dur parce qu'on essaie d'analyser le sujet, de trouver des clés de compréhension. Mais ce que disait Rim tout à l'heure, il n'est pas intéressé par la complexité de ces problèmes, explique beaucoup de ses positions. Juste un point très rapide sur l'évolution de la relation Trump-Netanyahou. Je pense qu'il y a une dimension qui, encore une fois, c'est un peu agaçant quand on essaye de faire de l'analyse de politique étrangère, mais une dimension purement personnelle. Trump a été extrêmement critique de Netanyahou après 2020, en considérant que Netanyahou l'avait trahi lorsqu'il avait reconnu la victoire de Joe Biden. Il aurait voulu que Netanyahou reprenne à son compte toute la théorie du vol de l'élection de 2020. Et il a voulu lui faire payer ça. Il a fallu plusieurs mois de diplomatie, d'envoyés spéciaux israéliens et de gens autour de Trump pour les réconcilier et permettre aussi à Trump de reconsidérer la politique qu'il devait mener vis-à-vis d'Israël. Mais cet aspect très personnel, on le voit sur le dossier indien où on voit une relation américano-indienne qui est en train de se briser de manière incompréhensible, principalement parce que Trump est très agacé par Modi qui refuse de lui donner crédit pour le cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde. C'est un petit peu la même chose sur Israël.
Alors quand vous écrivez, Rim Omtas, que Donald Trump a réussi en un temps record à ouvrir des marges de manœuvre susceptibles, sous réserve d'un suivi diplomatique structuré, de produire des effets positifs dans la région, à quels effets positifs est-ce que vous pensez ?
Mais c'est très bien de mentionner ça parce qu'en fait on a bouclé cet article avant en fait tout ce qu'on a vu après les frappes contre l'Iran. Ce que je disais, c'était les effets positifs de la levée des sanctions en Syrie, parce qu'au début il y avait une bonne discussion qui était en plus enclenchée entre les Syriens et les Israéliens pour au moins faire de la déconfliction sécuritaire. Depuis ça s'est beaucoup compliqué, comme Israël soutient aussi une faction druze syrienne qui, à minima, veut de l'autonomie, à maxima, veut fédéraliser ou même quitter la Syrie. Donc, il y avait des retombées positives. Les retombées positives, par exemple, c'est quand Trump va en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats. Et en Arabie Saoudite, il fait un discours qui est assez historique venant d'un président américain. Et en fait, c'est un vrai changement comparé aux autres quand il dit, par exemple, qu'on ne va plus vous donner de leçons de morale sur comment gouverner vos propres peuples, vous savez mieux votre histoire, et ça c'est très apprécié dans la région. Par contre, un mot sur l'Iran. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Martin. Rapidement, je pense que en fait, ce qu'il a fait, oui, aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu, mais ça a empiré une bombe à retardement qui est déjà très problématique. Ça a rendu un Iran qui était déjà très peu coopératif, encore moins coopératif, sur des questions très importantes comme la prolifération nucléaire. Ça le pousse dans la clandestinité plus. Et en fait, on n'a pas du tout de garantie qu'une guerre entre l'Iran et Israël ne va pas reprendre bientôt. Et ça, c'est un vrai facteur d'instabilité dans la région.
On ne va pas vous donner ou plus vous donner des leçons de morale, a dit Donald Trump en substance lors de son voyage en Arabie Saoudite. Mais America is beautiful quand même. Vous avez reconnu la voix de Ray Charles, America, the Beautiful, cette chanson patriotique écrite en 1893, mais chantée par Ray Charles en 1972. Même Barack Obama disait que c'était un magnifique hymne patriotique états-unien. Alors, America, the Beautiful, c'est quand même un peu différent d'America First, qui était censé guider la politique de Donald Trump, y compris en mettant une distance avec le Moyen-Orient après les échecs en Irak et en Afghanistan. Mais les États-Unis ont frappé l'Iran au mois de juin, n'ont pas abandonné leur aide militaire et financière à Israël. Des décisions qui divisent au sein du Parti républicain, comme rappelaient nos invités Martin Quincé et Ri Momtaz, mais que Donald Trump délègue en partie à son ami Steve Witkoff.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Notre pays a la chance de pouvoir compter sur un négociateur aussi compétent et expérimenté, qui se porte volontaire avec autant d'abnégation et qui se met toujours en avant. Steve Witkoff travaille sans relâche pour mettre fin au conflit sanglant et destructeur. On a dit, nous avons besoin de quelqu'un qui possède deux qualités, une grande personnalité et une véritable capacité à négocier, et il a les deux.
Entre Donald Trump et Steve Witkoff, une amitié est née en 1986 autour d'un jambon beurre un soir d'hiver dans une épicerie de Manhattan. Steve Witkoff voit arriver Donald Trump, qu'il connaît de réputation et considère comme le Michael Jordan de l'immobilier, dit-il, mais qui n'a néanmoins pas sur lui de quoi s'acheter son sandwich, et c'est Witkoff qui lui paie. Accord conclu, et l'amitié a traversé 40 années jusqu'au club de golf de Mar-a-Lago. Alors quel émissaire est aujourd'hui Steve Witkoff à l'étranger, puisque c'est ce qu'on lui demande. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po. Vous avez écrit « Les mots de Trump », un essai paru l'année dernière chez Dalloz. Alors à l'origine, comment et pourquoi Donald Trump a-t-il choisi Steve Witkoff, au-delà du fait que celui-ci lui a payé son sandwich il y a 40 ans ?
Steve Witkoff ressemble pas mal à Donald Trump. Il est, comme lui, a aimé les choses un peu hors normes. Il aime bien une personnalisation des relations, des affaires. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se modèle sur les affaires, les deals qu'il fait dans l'immobilier, dans la diplomatie, dans toutes ces activités, en fait. Donc, il y a vraiment des choses, des points communs importants entre les deux.
Donc, il a une même façon de procéder. Il ne fait pas appel aux experts, aux données du département d'État, par exemple, ou de l'ambassade avant de rencontrer qui Vladimir Poutine, qui Benjamin Netanyahou. Pas de briefing d'experts, comme on dit en anglais. À quoi servent-ils en général ces exposés préalables dont là, Steve Witkoff et Donald Trump se passent?
Oui, alors ça permet d'avoir des vraies connaissances qui vont au-delà de la relation, je dirais, simplement personnelle, qui permet d'avoir un peu de background, et ça va tout à fait dans le rejet des élites, en fait, dans cette idée que par la force de leur personnalité, par leur capacité relationnelle, ils vont pouvoir faire des choses que ne peuvent pas faire les experts. Et il y a cette méfiance, effectivement, envers cette élite traditionnelle, Et ça va jusqu'aux ambassadeurs, aux experts et même aux personnes qui maîtrisent d'ailleurs les langues, parce que le problème aussi, c'est que ni Witkoff ni Trump ne maîtrisent la langue et ça a déjà posé des problèmes importants. Il s'est déjà retrouvé avec juste un interprète qui est l'interprète parfois du leader avec lequel il est, donc il n'y a pas d'assurance d'objectivité.
Celui de Vladimir Poutine, par exemple. Steve Witkoff, quand il rencontre Vladimir Poutine, le président russe, il est seul avec lui et le traducteur de Vladimir Poutine.
C'est ça. C'est donc quelque chose qu'on avait jamais vu. Donc c'est cette diplomatie en fait hyper personnalisée qui est vraiment la caractéristique de ces affaires mondiales.
Lui, il dit, Steve Witkoff, qu'il apprend en discutant avec des politiques ou d'anciens politiques bien plus affûtés que lui, comme Tony Blair par exemple, qu'il avale des heures de documentaires Netflix sur les grandes guerres pour s'informer. Sa mission, faire la paix dans le monde, alors ce n'est pas une mince affaire. Quels sont les succès que l'on peut mettre, d'après vous, Jérôme Viala Godefroy, à l'actif de Steve Witkoff, ses interventions qui auraient fait avancer certains dossiers?
Alors, il y a eu quelques bonnes nouvelles. Il y a eu un trêve avec des échanges d'otages, notamment à Gaza, la libération de Mark Fogel. Cet Américain va à un échange de prisonniers avec la Russie. Il y a eu une désescalade aussi en mer Rouge avec un accord avec les Houthis. Mais très souvent, ce sont des effets un peu vitrines. Par exemple, sur les Houthis, il y a bien un accord par rapport aux États-Unis, mais ça ne règle pas le problème entre les Houthis et Israël, par exemple. On voit aussi que c'est la même chose sur les échanges d'otages, que la trêve à Gaza, elle a été très très courte. Donc on est dans des succès de court terme qui sont souvent non transformés en accord final.
Il est très apprécié, Steve Witkoff, des familles d'otages, des familles israéliennes. Il vient souvent parler avec elles sur la place des otages pendant une, parfois deux heures, mais leur donne a priori des espoirs, en effet, qui ne se concrétisent pas. Il est aussi allé au contact de représentants du Hamas. Il a, par exemple, mené des pourparlers pour obtenir la libération d'Edan Alexander, qui était le dernier otage américain à Gaza. Est-ce qu'à votre connaissance, il avait prévenu Benjamin Netanyahou qu'il allait rencontrer des responsables du Hamas?
Alors d'après ce que j'ai compris, non, il ne l'a pas prévenu. Et en fait, c'est très typique aussi de ce genre de diplomatie qui va très très vite, parce que ce qui est très important aussi, c'est quelque chose qui soit énorme, hein, il y a le tout en un, et puis surtout qu'il soit rapide. Et donc ça veut dire que on ne passe pas par les chaînes normales. Donc ça va à la fois des experts dont on parlait tout à l'heure, mais aussi éventuellement des leaders. Et dès qu'il y a ce qui semble y avoir une ouverture, on fonce. C'est vraiment cette idée d'arriver à quelque chose de rapide.
Qu'est-ce qu'il a dit ou fait jusque-là qui relève, d'après vous, de cette fois de l'incompétence pure et simple?
Alors, on a vu notamment avec la Russie, parce qu'il y a eu cette incompréhension totale avant la rencontre avec Poutine en Alaska, où Witkoff a, semble-t-il, mal compris, ça c'est des informations qui sont sorties dans la presse, qui ont été bien documentées, qu'il aurait mal compris ce que lui avait dit en fait Poutine, qui parlait d'accord. Et puis ce qu'on voit également, c'est qu'il est prêt effectivement à faire des accords un à un, sans comprendre exactement les enjeux. Et en fait, il a une vision, tout comme Donald Trump, d'immobilier, c'est-à-dire il y a un accord avec un échange, mais il ne voit pas, il voit l'aspect en fait financier très souvent, et il pense que en passant par l'économie notamment, comme en mettant une pression, on va arriver à quelque chose, une sorte de géoéconomie comme levier. Or, ça ne marche pas toujours. Il ne prend pas du tout en compte, par exemple, les notions de culture, de peuple. Et c'est notamment le cas avec le Hamas, avec également, enfin, avec toute cette région où il y a des enjeux vraiment culturels, historiques, qui sont très importants. Ce n'est pas juste une question d'argent et de moment présent, en fait.
Si on le compare à celui qui tenait son rôle lors du premier mandat de Donald Trump, Jared Kushner, le gendre du président, il n'avait guère davantage de compétences diplomatiques, me semble-t-il. Lui non plus. Alors, qu'est-ce que cette présence de Steve Witkoff change dans le deuxième mandat de Donald Trump?
Ben, c'est que Witkoff a déjà beaucoup plus, hein, il a des dossiers plus importants, la situation est beaucoup plus fragile et beaucoup plus dangereuse, hein, et on est dans quelque chose de plus grave depuis notamment l'attaque du Hamas au Moyen-Orient, et puis il s'occupe aussi de la Russie. Il a quand même d'énormes dossiers sans avoir les connaissances adéquates.
Il avait été question en 2018, alors je ne sais pas où en est cette affaire, mais de possibles conflits d'intérêts entre Jared Kushner et une société immobilière lié au Qatar. Steve Witkoff est-il exempt de tout reproche en la matière ?
Alors, pas du tout. Est-ce qu'il faut croire? Alors, il faut évidemment la Maison Blanche dit toujours que non, il n'a plus du tout de lien avec cette affaire, mais il pilotait en fait effectivement des pourparlers alors que il avait lui-même des intérêts et notamment dans la cryptocurrency,
les crypto-monnaies.
La crypto-monnaie, c'est ça, et des investissements notamment du Qatar, notamment de ces pays-là. Et en fait, pour l'instant, c'est très opaque. Et c'est ça le problème aussi, c'est que ça, qu'il s'agisse de la diplomatie qu'il fait, des détails de ce qu'il peut être en train de faire, ou bien de l'argent qui est personnel, qui est impliqué, on a très très peu de véritables informations. Il y a juste des choses qui sortent dans la presse, mais il n'y a aucune transparence.
Notamment le fait que Steve Witkoff a vendu l'hôtel Park Lane de Manhattan à un fonds souverain du Qatar pour 623 millions de dollars. Avec la question qui se pose à la suite de cette information, c'est avec quelles éventuelles conséquences immédiates, quels effets sur la politique du Qatar envers les États-Unis et vice-versa. Pour l'instant, il est très difficile d'y voir plus clair. Alors jusqu'où Donald Trump lui accorde-t-il sa confiance?
Donald Trump lui accorde une grande confiance parce qu'il voit les choses de la même manière, mais jusqu'à un certain point, et on l'a vu notamment au moment du bombardement de l'Iran, Donald Trump a pris cette décision après l'attaque d'Israël sans du tout que Witkoff soit au courant, alors que même que lui-même avait été dans des pourparlers avec l'Iran.
Donc, au sujet du programme nucléaire.
Exactement. Donc on voit que là, il n'a pas été prévenu nécessairement, même si tout le monde dit qu'il a quand même l'oreille du président, mais on voit bien que c'est jusqu'à un certain point. Et c'est toujours le cas avec Donald Trump. Hein. Beaucoup de personnes disent qu'en fait, il n'a pas vraiment d'amis, mais il n'a que des relations d'intérêt.
Même avec lui, Steve Witkoff, avec qui il a des relations de très très longue date. Merci beaucoup Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été avec nous. Les mots de Trump, votre essai apparu l'année dernière chez Dalloz. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Alors, jusqu'où s'achètent les bonnes relations, Martin Quincey?
Et une des questions pour Israël, c'est sa capacité à rester un allié privilégié des États-Unis dans la tête de la population américaine. Et on a vu avec les sondages qu'il y a un déclin du soutien de la population américaine, qui est particulièrement fort chez les démocrates, mais qui existe aussi, notamment chez les jeunes républicains, même chez les évangéliques. Et ça, c'est un enjeu de long terme pour Israël. Et face à cette problématique israélienne, il y a un autre élan qui est très clair, c'est la capacité d'un certain nombre de pays arabes à, avec de l'argent très clairement, influencer aussi le débat américain et parfois contre la position d'Israël. La capacité par exemple du Qatar aujourd'hui à influencer un certain nombre de radios, de télévisions américaines. On a eu même Tucker Carlson qui fait une grande interview en solo avec le prince héritier du Qatar. C'est vraiment là où Israël va devoir se replacer dans le débat américain.
Rimontaz.
Et c'est là où les Européens ont beaucoup de mal. Ils se font beaucoup d'illusions sur leur capacité d'influencer Trump. Pour le moment, ils l'achètent. Et en plus, ils n'ont pas les moyens de l'acheter, à l'inverse des Arabes. Donc, à voir avec les Européens, ils n'ont pas encore trouvé leur bonne méthode.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de notre série Pax Americana, la paix selon Donald Trump. Rim Momtaz, rédactrice en chef de la plateforme Strategic Europe chez Carnegie. Vous avez contribué au dernier numéro de la revue de l'IFRI, Politique étrangère. Votre article porte sur l'administration Trump 2 et le Moyen-Orient. Merci beaucoup Martin Quincey, directeur du bureau de Paris du laboratoire d'idées German Marshall Fund des États-Unis. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron veut nommer un successeur dans les tout prochains jours. Mais qui? Ce casse-tête politique est largement commenté à l'étranger, Catherine.
Par des éditorialistes inquiets à l'international. La France est-elle devenue ingouvernable? Qui peut durer face à un Parlement divisé? Se demande aussi bien Der Spiegel en Allemagne que la Vanguardia en Espagne. Et ce qui m'a frappé, c'est que contrairement à la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier, où le journal belge Le Soir, le quotidien italien La Repubblica ou encore la Frankfurter Allgemeine Zeitung parlaient de chaos sans précédent, eh bien aujourd'hui, pour ces mêmes quotidiens, la crise s'est installée. installée. L'impasse politique semble durer en France, faute une fois encore d'avoir pu trouver un chemin pour adopter le budget de l'État en l'absence de majorité dans l'hémicycle, écrit Le Soir en Belgique. Pour le journal en ligne Blick en Suisse, la vérité financière ne paie pas, alors que François Bayrou n'a eu de cesse d'alerter sur une dette publique de 3 415 milliards d'euros, soit presque 120% du produit intérieur brut. Mais une fois le constat posé, ce sont bien les solutions qui n'ont pas convaincu les oppositions, souligne le Guardian, le quotidien britannique de gauche, cite largement le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir appauvri les pauvres, enrichi les riches et tourné le dos à l'avenir. Les problèmes du président s'aggravent, titre de son côté le Washington Post. Bientôt un cinquième Premier ministre pour le dernier quinquennat, souligne le quotidien américain, le bazar fiscal et politique. La paralysie s'aggrave, confirme le Wall Street Journal et le New York Times. Tout peut basculer dans la rue, prévient le journal Blick en Suisse, qui se demande qui va ressusciter la France maintenant que François Bayrou s'est suicidé. Qui pour entendre le cœur citoyen dans cette tragédie démocratique. Le chaos politique pourrait bien menacer toute l'Europe, conclut Der Spiegel.
Au Népal, Catherine, le gouvernement fait marche arrière et redonne l'accès à la plupart des réseaux sociaux dans le pays.
Il aura fallu un massacre, le massacre du 8 septembre, titre le Nepali Times. Il aura fallu 19 morts et près de 400 blessés, estime le quotidien népalais Kantipur, pour que le gouvernement laisse la jeunesse s'exprimer de nouveau sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, le Premier ministre népalais avait suspendu 26 plateformes, dont Facebook, X, YouTube, au motif qu'elles ne s'étaient pas enregistrées au Népal dans les délais accordés par les autorités, précise la BBC et la Deutsche Welle. De millions d'usagers dans ce pays de 30 millions d'habitants, rappelle la BBC, plus de 80% des Népalais communiquent via les réseaux sociaux, où ils expriment aussi leur colère contre l'incurie politique, contre la corruption et le népotisme aussi, le train de vie luxueux des enfants de responsables politiques au Népal, possible grâce aux impôts durement payés par les citoyens, dénonce Kantipur. Gen Z contre Nepo Babies, résume également le quotidien népalais Kathmandu Times. Cette colère n'est pas restée virtuelle. Des scènes incroyables hier dans les rues de Katmandou, commente la BBC, sous des bannières telles que Youth Against Corruption, les jeunes contre la corruption, montre Al Jazeera. Des manifestants se sont approchés du parlement népalais et la police a répliqué à coups de matraque, de gaz lacrymogène, de canons à eau visant les jeunes au visage et au ventre, comme on peut le voir dans un reportage de l'agence de presse AP. Et puis, des tirs à balles réelles. Une pluie de balles est tombée sur les étudiants venus en uniforme pour s'exprimer, dénonce le quotidien népalais Kantipur. La génération Z ne s'était exprimée que sur les réseaux sociaux, mais nous avons pris conscience que nous devions faire entendre notre voix, explique un manifestant. Nous devons descendre dans la rue. La génération Z doit dénoncer le chaos causé par le gouvernement et ses dirigeants, peut-on entendre dans un reportage d'Al Jazeera. 19 morts donc au moins hier au Népal. Jamais l'État n'avait tué autant de personnes en une seule journée, souligne le Kathmandu Post. Et ce bilan pourrait encore augmenter, préviennent Kantipur et la BBC. Car parmi les 400 blessés environ, de nombreux patients sont dans un état grave, blessés à la main, aux pieds, baskets, taché de sang, fait voir Al Jazeera. Alors que le gouvernement a la responsabilité constitutionnelle d'écouter la voix du peuple, elle ne fait que la réduire au silence, s'emporte le journal Kantipur. Si le ministre de l'Intérieur a démissionné hier au Népal, annonce le Kathmandu Post, le Premier ministre doit en faire autant, lance un éditorialiste du Kantipur. Impossible de rester au pouvoir avec le sang des jeunes générations sur les mains. Le Nepali Times espère, lui, une contestation encore plus large au Népal et une remise en question des écarts de richesse, comme au Bangladesh, en Indonésie, aux Philippines ces derniers mois, alors que 10% des Népalais, principalement des jeunes, quittent leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure. C'est tout le Népal qui demande des services publics de qualité, des emplois et un meilleur niveau de vie, énumère le quotidien Kantipur.
Merci beaucoup Catherine Dutu.